Aujourd'hui, nous vous emmenons en voyage avec la compagnie de train autrichienne OBB et son fabuleux Nightjet, le train de nuit de mes rêves. Imaginez vous quitter Paris ou Strasbourg à la nuit tombée et vous vous réveillez doucement en Autriche après un gros dodo sur les rails. En quelques heures, vous voilà dans le centre-ville vibrant de Vienne, prêt à explorer ses cafés charmants et ses rues historiques. Pendant ce green trip en train, vous pouvez aussi faire escale à Salzbourg, la ville de Mozart, à Linz, avec sa scène artistique avant-gardiste, ou encore à St. Pölten, une petite ville géniale et hors des sentiers battus d'Autriche. Alors, si l'idée de voyager de manière confortable, écologique et sans tracas vous séduit, pensez direct au Nightjet d'OBB. Personnellement, j'ai déjà booké une escapade en famille parce que je rêve d'un chocolat viennois après une nuit cosy dans le train. Dans cet épisode bonus, Dorothée Oliéric, grand reporter depuis 30 ans pour France 2, se confie sur son pays de cœur, l'Afghanistan. Elle, qui a été pour la première fois il y a 20 ans et qui depuis n'a cessé d'y retourner, nous dévoile en quelques minutes l'essentiel à voir et à savoir sur ce magnifique pays. On parle quelle langue en Afghanistan ?
À Kaboul, on parle le Dari, mais les Pachtounes parlent le Pachtou. Les Pachtounes, c'est 40% de la population à peu près. Donc c'est un peu comme le persan, mais voilà, version afghane.
La particularité du peuple afghan ?
Très hospitalier.
Qu'est-ce qui distingue Al-Qaïda des talibans qui ont pris le pouvoir en Afghanistan ?
Alors, les talibans sont ultra-nationalistes, mais ne veulent pas un califat mondial. En fait, ils veulent un émirat islamique dans leur pays. Ils ne veulent pas exporter ce califat. C'est ce qui les diffère aussi.
Le quotidien des Afghans à Kaboul aujourd'hui ressemble à quoi ?
Alors, ce n'est pas la même chose si on parle des femmes ou des hommes. Le quotidien des femmes, hélas, c'est de rester principalement à la maison et de se sentir prisonnière et de dépérir, abandonnée du monde. Et le quotidien des hommes n'a rien à voir. La ville grouille de monde, de travail. Le visage de Kaboul a changé. La ville est plus propre, étonnamment. Il y a beaucoup de constructions, il y a beaucoup de changements. Mais alors pour les femmes, c'est un enfer.
Comment elles vivent aujourd'hui, celles que tu as rencontrées, toi ? Juste enfermées ?
Alors, il faut savoir que 60% des femmes en Afghanistan ont perdu leur travail. Ce qui veut dire qu'il y a 40% des femmes qui sont effectivement enfermées à la maison, en train de devenir dingues, désespérées surtout, oui.
De quoi vivent-ils en majorité ?
Comment ils survivent surtout, ouais. Parce que tout le monde a perdu de l'argent. Les femmes qui travaillaient, par exemple, dans des ministères continuent à toucher, même en étant à la maison, une partie de leur salaire. Parfois, elles font un travail aussi en distanciel pour des ONG, alors qu'officiellement, elles n'ont pas le droit de travailler pour les Nations Unies et pour des ONG. Elles le font. C'est un peu le pays de la débrouille, effectivement. Mais pour les plus pauvres, c'est très, très, très difficile. Beaucoup ont pris une charrette, ils appellent ça une karachi, pour transporter sur un marché des achats, des uns pour quelques centimes d'euros. Quelques centimes, alors que des gens avant étaient par exemple gardiens pour une ONG, gagnaient $100 par mois et aujourd'hui ils gagnent quelques euros. Et il y a une vraie pauvreté qui vient, quoi, qui tombe sur le pays. Oui.
Quel est le reportage qui t'a le plus marqué là-bas ?
Oui, si. Il y a un reportage qui m'a beaucoup marqué en Afghanistan, c'est sur cette petite fille qui s'appelle Amina et qui était vendue pour être mariée de force à l'âge de 10 ans. Et le hasard a fait qu'on l'a rencontrée et qu'elle n'était pas encore partie pour retrouver son mari. Et grâce à d'autres reportages, il y a eu énormément de gens qui se sont proposés pour aider cette petite fille, ainsi que Sabera, une petite fille de 4 ans qui était vendue $500 pour être adoptée par un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et Amina était vendue $2000 pour être mariée. Et j'ai eu vraiment des tonnes et des tonnes de messages en France, en Angleterre, en Suède, parce que ça a été diffusé, notre reportage, un peu partout en Europe. Et grâce à ça, j'ai trouvé l'association Idoine, qui s'appelle Too Young to Wed, trop jeune pour se marier. C'est une journaliste américaine, ancienne photographe justement, qui a couvert l'Afghanistan, qui a monté depuis des années cette association formidable et qui aide à lutter contre les mariages forcés de façon très intelligente, parce qu'il ne suffit pas de racheter quelque part la petite fille, mais il faut expliquer à celui qui l'a achetée, à la famille qui l'a vendue, pourquoi on ne le fait pas et comment la famille va rembourser petit à petit la dette à la famille. Donc, tout ça se fait sur plusieurs semaines de discussion avec l'imam, avec le chef du village, avec les deux familles. Et donc, la famille d'Amina, la famille de Sabera ont été sorties de leur camp, de la pauvreté, prises en charge par cette association. Elles vivent avec leur famille, elles vont bien. Et voilà, parfois c'est une récompense quand de temps en temps on se dit voilà, ça a servi à quelque chose, au moins à sauver deux petites filles.
Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à connaître sur la culture afghane avant de se rendre sur place ?
Il y a énormément de choses à connaître. Effectivement, les ethnies, le fonctionnement. Je vous parlais des Pashtuns, c'est l'ethnie du sud principalement et de l'est, donc qui sont les talibans, qui ont un code de conduite, un code de vie qui s'appelle le Pashtun Wali, et c'est que l'hospitalité est au-dessus de tout. C'est-à-dire que s'il partage le pain avec vous, déjà c'est bon signe, il ne vous arrivera rien. Et c'est beaucoup de codes d'honneur, ce qui donne aussi des choses très dures, hein, parce qu'on défend la sœur, on défend la fille. Voilà, donc je pense à ça, parce que là, c'est les talibans, donc c'est le code, le Pashtun Wali.
Le livre à lire si on veut comprendre ce pays ?
Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je parlais tout à l'heure des Cavaliers de Kessel. C'est magnifiquement raconté comme pays. Et il y a aussi Atiq Rahimi, qui a écrit de très 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 beaux livres sur l'Afghanistan.
Les plus beaux paysages d'Afghanistan, où se trouvent-ils ?
Alors, j'ai eu la chance de traverser le pays à plusieurs reprises. Passer de Peshawar au Pakistan, à Kaboul, c'est traverser la fameuse Khyber Pass. Et c'est un choc. Et à chaque fois, je suis subjuguée par la beauté du paysage afghan. Ces falaises, ces montagnes, un ciel très bleu, des vallées vertes, ces trois couleurs, voilà, le ciel bleu éclatant, les montagnes pointues qui se détachent dans un marron et une vallée verte. C'est impossible à décrire tellement c'est époustouflant. C'est un pays absolument sublime.
Quels sont les plats typiques d'Afghanistan ?
Il y a le palao, qui est un plat à base de riz, d'agneau, un peu gras, je trouve. Ils font formidablement bien les épinards. C'est-à-dire là, tous les enfants qui n'aiment pas les épinards, il faut qu'ils mangent les épinards en version afghane, qui s'appelle polako, je crois, et qui avec de la crème, des épices. Sinon, c'est des plats avec beaucoup d'agneau, beaucoup de coriandre, de crudité. C'est un délice, j'adore.
Si on veut, nous, aider le peuple afghan, on fait comment aujourd'hui ?
C'est compliqué, mais c'est pas impossible. Il y a encore des organisations sur place, donc faut se renseigner. Je parlais de Too Young to Wed, mais ça, c'est pour les filles. Il y a les Nations Unies qui sont sur place, qui aident les enfants, les femmes. Donc, faut se rapprocher d'associations comme ça, ouais.
Comment tu envisages, toi, l'avenir de ce pays ?
C'est un peu déchirant, c'est un peu inquiétant. Là, c'était très, très compliqué de travailler. Je suis rentrée il y a 15 jours et pour la première fois, ces femmes afghanes si courageuses, eh bien, n'ont pas osé témoigner. Et elles l'ont fait à toute époque, depuis plus de 25 ans où je vais dans ce pays. Et là, elles ont peur. Elles me disent « qu'est-ce que j'ai à gagner ?» C'est comme si elles avaient perdu l'espoir. Personne ne va venir nous sauver. Les Américains ne vont pas venir, les Français ne vont pas venir. Donc on se retrouve face à face avec les talibans et c'est comme si elles n'avaient pas le choix et qu'elles se résignaient à vivre avec eux et que voilà, elles ne voulaient plus faire de vagues. Parce que qui va les aider aujourd'hui ? Je ne sais pas.
Merci beaucoup.
Merci.